chez le roi. Marie-France Guimard-Roche est très heureuse de vous présenter son émission consacrée à Versailles. Dans le dossier du Figaro du 18 juillet 1996, consacré au roi Louis II de Bavière, Anne Muratori-Philippe nous emmenait vers les cimes enneigées, vers les lacs enchâssés dans des forêts couvertes de brume, avec les donjons irréels, plantés sur des à-pics, des vaisseaux fantômes arrimés à l'au-delà. Tels ont été les paysages préférés de Louis II de Bavière. Neuschwanstein, Linderhof et Remkinsee, trois châteaux qui gardent encore aujourd'hui le souvenir douloureux du Néron bavarois. Mais cette image légendaire du malheureux roi de Bavière, chère aux romanciers et aux poètes, est incomplète et fausse, car pour les affaires de l'État, le roi fou savait raison garder. Louis II est né le 25 août 1845 à Nymphenburg, près de Munich, dans un château élevé par un électeur de Bavière amateur de décors à la française. Fils aîné de Maximilien II, il est le digne descendant de la maison des Wittelsbach, l'une des plus anciennes d'Europe, qui compte parmi sa lignée plus d'originaux et d'artistes que de fins diplomates. Une enfance solitaire avec son frère Othon, de 3 ans son cadet, et des précepteurs peu pédagogues, façonne le prince charmant aux yeux rêveurs en un idéaliste opiniâtre. En 1864, la mort subite de Maximilien II le propulse sur le trône de Bavière. Malgré ses 18 ans, il est un enfant sans expérience, ignorant des réalités, refusant l'action en dépit d'un désir ardent d'accomplir de grandes choses. Une tâche lourde et difficile attend cet adolescent qui suit le cercueil de son père en courbant la tête et dont la pâleur provoque des murmures dans l'assistance. Bien que prenant très au sérieux les grands intérêts du royaume, Louis II profite de ses premiers mois de règne pour réaliser son vœu le plus cher, attirer auprès de lui Richard Wagner. Le compositeur traversait alors la période la plus critique de sa vie. L'échec de Tannhauser, des soucis d'argent, des querelles de ménage, le public qui le boude et une réputation de révolutionnaire le faisaient passer de crise de colère en accès de désespoir. La proposition du souverain de Bavière ne pouvait guère mieux tomber. Celui-ci lui offre son amitié, sa protection et le secours du trésor royal, ne demandant en échange que de l'empressement à répondre à ses appels, du goût pour la correspondance et de la complaisance à se laisser interroger ou contempler à toute heure. « Je vole à ces rendez-vous comme à ceux d'une maîtresse », écrit Wagner à son amie Madame Ville. « Nous restons là des heures entières à nous contempler, les yeux perdus dans mes yeux. Ce qu'il y a de prodigieux dans mon destin devient chaque jour plus beau. C'est le ciel qui m'a envoyé ce prince. Par lui, j'existe encore. Je puis encore créer. Je suis libre. Je plane au-dessus de la vulgarité comme au milieu de vastes nues. Je n'ai plus rien à faire qu'à achever mon œuvre, à créer, à produire des choses parfaites. » Tel Tannhauser. La lune de miel va durer quelques années, en dépit de la campagne menée par les Bavarois qui s'offusquent des millions dépensés au profit de l'art wagnérien. Comme pour montrer qu'il ne cède pas à la pression populaire, Louis II fait jouer Tristan et Isolde. C'est à ce moment-là que le roi s'éloigne de ses sujets, préférant de longues retraites dans la solitude, aux fêtes traditionnelles qui attirent tant de monde à Munich. En 1865, la cabale contre le favori tourne à l'émeute. Et pour la première fois, le roi est accusé de n'être jamais dans sa capitale, de ne pas recevoir ses ministres et de confier le pouvoir à des irresponsables, ses secrétaires de cabinet. Prudent, Louis II cède, non sans quelques remords. « La décision m'est pénible, dit-il à l'un de ses ministres, le baron Schrenck. Mais au-dessus de tout, je mets la confiance de mon pays. Je veux vivre en paix avec mon peuple. » L'aventure wagnérienne achevée, Louis II va devoir régler le sort de l'Allemagne. Tout ce que les Bavarois attendent de lui, c'est qu'il poursuive la politique de Maximilien. Dans une ode au jeune roi, le poète Garnthausen résume ce sentiment. Lève haut la bannière de ton père et haut aussi le droit allemand. Ce droit dont il est question, c'est celui des duchés de l'Elbe, convoités par le Danemark. Toute l'Allemagne du Sud, la Bavière en tête, prônait l'indépendance des duchés et avait applaudi aux premières défaites danoises. Mais il y avait la Prusse, aux mains de Bismarck, redoutable artisan de l'unification. La marge de manœuvre de Louis II est bien restreinte. Soit il poursuit la politique paternelle en s'appuyant sur des éléments catholiques et conservateurs pour refouler les ambitions de la Prusse, soit il va au-devant des vœux prussiens en s'associant au mouvement unitaire. Jalousement attentif à la défense des droits de la couronne de Bavière, il opte cependant pour la seconde solution. Même s'il déteste l'hégémonie prussienne, il se soumet de mauvaise grâce et avec un profond regret au cours des choses. Lucide et courageux, il avoue au ministre de France à Munich « Monsieur de Bismarck veut faire de mon royaume une province prussienne. Il y arrivera, hélas, petit à petit, sans que je puisse l'en empêcher. Mieux, Bismarck parvient à lui suggérer d'appeler tous les souverains allemands à proclamer empereur Guillaume de Prusse. » Louis s'exécute, mais le 2 décembre 1870, il ne cache pas ses sentiments à Bismarck. Il m'est bien doux d'avoir conscience que grâce à l'attitude que j'ai prise dès le commencement de cette glorieuse campagne, j'ai été à même de faire un pas décisif en faveur de la cause nationale. Mais j'espère aussi avec conviction que la Bavière conservera la place qu'elle occupe et qui est parfaitement conciliable avec une sincère politique fédérale, en même temps qu'elle offre la plus sûre garantie contre les dangers de la centralisation. Le 18 janvier 1871, le vieux roi de Prusse, Guillaume Ier, est proclamé empereur allemand dans la galerie des glaces du château de Versailles. Bismarck triomphe. Tous les princes allemands sont là, sauf le roi de Bavière. Il a préféré se faire représenter par son frère. C'est son dernier acte politique. Dès lors, Louis II fuit Munich. Il construit ses rêves à la campagne et livre son combat contre lui-même, entre son homosexualité et sa foi. Le 11 juin 1886, ses ministres le font interner au château de Berg, alors que son oncle Léopold assure la régence. Deux jours plus tard, on le retrouve noyé dans le lac de Starnberg. Aujourd'hui encore, sa mort reste une énigme. L'ensemble des fameux châteaux du roi Louis II appartient pleinement au style et au courant romantique. Apparu en Allemagne dès le début du XIXe siècle, notamment en réaction à la suppression du Saint-Empire en 1806 et à l'écrasement de la Prusse par la France en 1807, le courant romantique se poursuit tardivement dans les dernières œuvres de Richard Wagner, par exemple. Le roi fait partie de ces romantiques tardifs. Il essaiera toujours de rappeler et de mettre en valeur la mémoire du passé, notamment par ses châteaux. Le château de Herrenchiemsee fut commencé en 1878. Inachevé, il s'agit d'une copie plus ou moins conforme du château de Versailles, érigé sur une île au milieu du lac de Kempsee, entre Munich et Salzbourg, à l'emplacement d'un ancien monastère. Louis II le fit ériger comme un monument à la gloire du roi Louis XIV, qu'il admirait, et à l'absolutisme royal. Ce château fut inauguré en 1886 et le roi n'y séjourna pas plus d'une semaine. Le château de Neuschwanstein, inachevé, construit près de celui de son père, le château de Hohenschwangau, de 1869 et terminé, après la mort du roi, en 1891. Il y a aussi le pavillon de chasse à Sachsen, en 1871, au-dessus de Garmisch-Partenkirchen.
Thank you.
encore du Michel Legrand pour le romantisme des châteaux de Bavière, particulièrement pour Linderhof. Il fut construit de 1869 à 1879. Dans les jardins, on éleva le pavillon mauresque, acquis par le roi après l'exposition universelle de Paris de 1867, et une grotte de Vénus qui évoque Tannhäuser, l'opéra de Richard Wagner. On peut également y voir la hutte de Hunding avec l'épée Notung dans le tronc de l'arbre dans le centre de la cabane inspirée de l'opéra La Valkyrie. Les troncs d'arbres utilisés pour construire cette cabane ne sont pas en bois, mais en béton, Louis II n'ayant jamais été opposé au progrès technique. La chambre du roi en particulier est une véritable splendeur. Des murs, au plafond, jusqu'aux courtines, tout est revêtu du velours bleu nuit. Il aimait beaucoup cette couleur. En face du grand lit à baldaquin, également bleu nuit, se trouve la grande porte-fenêtre. De son lit, le roi voyait descendre une immense cascade jusqu'au pied de la terrasse bordant sa chambre. Absolument fabuleux. Louis laissa de nombreux plans et de dessins pour d'autres châteaux dont la construction était envisagée. Il projetait notamment l'édification d'un palais byzantin dans le Grazwantal, près de Linderhof, d'un palais chinois dans le Tyrol, ainsi que la reconstruction du château de Falkenstein, près de Pronten, dans l'Allgäu. En 1885, on entama la démolition de l'ancien château de Falkenstein et aménagea la route qui y menait, puis les travaux furent abandonnés. Louis II avait demandé qu'à sa mort, ses châteaux soient détruits. Cependant, 6 semaines après son décès, le gouvernement bavarois décidait de les ouvrir au public afin de démontrer que le roi était fou et de permettre de payer les dettes royales en demandant un droit d'entrée. Or, dès 1920, les dettes étaient payées. L'ouverture des châteaux entretint la popularité du roi, qui est devenu un personnage de légende, véritable mythe dans les Alpes bavaroises. Les paysans employés sur les chantiers royaux étaient très bien payés, et le roi généreux et poli avait toujours eu un mot gentil pour chacun de ses sujets. Tous les ans, au pavillon de chasse de Schatzen, on fête l'anniversaire du roi et la Saint-Louis par un feu illuminant la nuit bavaroise. Louis II de Bavière est le seul roi des temps modernes dont nous avons vu le personnage se transformer en image légendaire, en véritable mythe. En France, c'est Verlaine qui, dès la disparition du monarque, a dressé de lui un portrait qui s'impose depuis un siècle. Le sonnet paru dans Amour en 1887. Roi, le seul vrai roi de ce siècle, salut, sire, qui voulut mourir vengeant votre raison, vous fûtes un poète, un soldat, le seul roi de ce siècle où les rois se font si peu de choses, et le martyr de la raison selon la foi. Salut à votre très unique apothéose, et que votre âme ait son fier cortège, or et fer, sur un air magnifique et joyeux de Wagner. Marie-France Guimard-Roche sera heureuse de vous retrouver pour une autre émission de Bienvenue chez le Roi, enregistrée et réalisée par Pierre Écart dans les studios du ROCAS de Radio Grand Ciel.